Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine, tôt à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr ou en passant par l'application de Radio France. Aujourd'hui, il sera question de Crazy Cat, une des premières bandes dessinées à l'humour décalé. Ce comic strip, démarré dans les années 1910 dans la presse américaine, fut publié quotidiennement jusqu'en 1944, jusqu'à la mort de son auteur, George Herriman. Et sans jamais avoir rencontré de succès populaire, Crazy Cat est aujourd'hui considéré comme la création majeure du XXe siècle dans le 9e art. Certains considèrent aujourd'hui George Herriman comme le précurseur du mouvement dada ou du postmodernisme. Pour d'autres, c'est le père de l'humour nonsense. Si l'œuvre de George Herriman est encore peu connue en France, c'est notamment parce qu'elle est pas toujours facile à traduire. Et pourtant, traduire Herriman, faire parler en français Crazy Cat, c'est ce que fait Marc Wolin pour Les Rêveurs, la maison d'édition de Manu Larsenet qui a repris les droits pour la France de la série. Marc Wolin est mon invité ce matin à l'occasion de l'apparition des quotidiennes panoramiques de 1920 de Crazy Cat. Bonjour Marc Wolin.
Bonjour Toufik.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter Crazy Cat, qui a un peu plus de 100 ans.
On ne sait pas si c'est un chat ou une chatte, Crazy Cat, Marc Wolin.
Non, c'est la base même de la bande, il faut surtout pas le dire.
Ouais, parce que George Herriman jouait justement avec cette ambiguïté sexuelle de son personnage principal. Crazy Cat, qui est donc un chat un peu naïf, hein.
C'est le Candide.
C'est le Candide.
C'est le Candide, mais c'est aussi le Socrate qui fait accoucher les gens en disant des choses énormes, il fait bouger les choses.
Face à lui, il y a la souris, qui ne l'aime pas du tout, Ignat Mouse, et puis le chien, Sergent Pup, qui essaye de mettre un peu d'ordre dans ce malentendu, parce que si Crazy Cat aime Ignat Mouse, le moins que l'on puisse dire, c'est que la réciproque n'est pas vraie.
Absolument. La souris lui balance quotidiennement une brique à la tête que le chat, malheureusement pour la souris, prend pour une preuve d'amour et donc ça ne fait que redoubler ses assiduités.
Qu'est-ce qu'on aime chez George Herriman? Pourquoi il est considéré comme quelqu'un de très important dans le 9e art d'une manière générale et surtout dans l'histoire des comic strips américains? Pourquoi c'est lui qui revient dans la bouche des grands dessinateurs depuis les années 40, depuis sa disparition, Marc Wolin?
Je crois que c'est d'abord le côté poétique de George Herriman qui a conquis des générations de dessinateurs, parce qu'on a beaucoup dit que c'était un artiste pour artiste, qui est beaucoup plus apprécié des gens du métier que...
Pour ne pas dire pour un télo.
Que du grand public. Et récemment, on a découvert une autre raison, c'est que c'est tout de même un précurseur de la bande dessinée pour adultes. C'est-à-dire qu'à l'époque de la lutte entre Hearst et Pulitzer pour gagner des lecteurs, les suppléments comics des journaux du dimanche sont destinés avant tout aux enfants et au public familial. Et c'est Moses Königsberg qui sera en fait le rédacteur en chef comics de Hearst, d'où le nom du Kingfisher Syndicate qui va diffuser les ventes du réseau Hearst, qui va avoir l'idée de demander à un dessinateur qui s'appelait Claire Briggs, de créer une série pour séduire les parieurs sportifs sur les courses de chevaux. Il va le faire, mais c'était l'époque où les essais duraient quelques jours, et là ça va être une quinzaine de jours avant que l'idée soit abandonnée. Mais elle va être reprise par un dessinateur, Bud Fischer, reconnu comme le premier auteur de bande dessinée quotidienne. Et lui aussi fait un parieur, il donne même des tuyaux qui parfois réussissent. Et ça va donner l'idée à George Herriman qui a essayé plein de bandes dessinées depuis ses débuts et qui a envie de faire une série qui dure. Il fait lui aussi un parieur invétéré qui s'appelle Prune the Plunger. Un plunger, c'est quelqu'un qui claque tout son blé, qui passe son temps en course. Ouais. Et qui lui, il a beaucoup plus de liberté, donc c'est toutes ses frasques, c'est ses aventures quotidiennes, mais pas forcément, il parie pas forcément. Et là aussi, malheureusement, la BD sera de courte durée. Mais son personnage, un petit barbu, va être le portrait craché de Jeff, la BD Mutt & Jeff. Et donc, on peut dire qu'il a influencé déjà la bande dessinée qui va être longtemps celle qui marche le mieux.
Et comment arrive Crazy Cat dans son univers?
Alors, donc, je disais, il a fait beaucoup de bandes dessinées auparavant. Il a toujours fait un chat qui se baladait dans sa BD. Et en 1910, Hearst lui donne enfin la chance d'avoir une série quotidienne régulière qui s'appelle d'abord The Dingbat Family, qui est au début une série tout à fait anodine. C'est la mode des séries familiales. Il y a le mari, la femme, le fils, la fille, le chien, le chat. Et Herriman a cette idée fabuleuse, dans un premier temps, d'inventer des voisins du dessus qu'on ne verra jamais et qui mènent une vie infernale à notre pauvre famille. Et donc, la BD va être baptisée The Family Upstairs, la famille du dessus. Et dans la Dingbat Family, au rez-de-chaussée, nous avons un chat qui se balade. Et au bout de quelques jours, il y a une souris qui apparaît, qui lance un petit caillou, on ne sait pas encore ce que c'est, ce n'est pas encore la brique, au chat. Quelques jours plus tard, elle le traitera de Crazy Cat. Et il va continuer cette animation de bas de case, comme souvent, c'est la série accessoire qui va plaire. D'abord aux garçons de bureau, puis aux gens de la rédaction, puis au rédacteur en chef, qui, au bout de quelques temps, va accorder plus de place à Crazy et Ignace, qui ont maintenant leur prénom, et qui vont avoir droit à un petit rez-de-chaussée de la bande principale. Et devant le succès grandissant, Hearst, en 1913...
Enfin, succès grandissant, mais pas populaire, grandissant auprès d'un milieu. Hearst, par exemple, adore cette bande dessinée.
Il adore. Si, en fait, malgré ce qu'on dit, au tout début, il y a un succès populaire, à tel point que donc ça démarre en 1910, et dès février 1911, on peut lire dans la presse, au moment de la Saint-Valentin, il faudrait rebaptiser la Saint-Valentin, la Saint-Crazy. Parce qu'il y a déjà l'humour de Crazy pour cette souris, déjà célèbre. Il y a un petit succès populaire après. En 1920, plus tard, ce sera le succès intellectuel, puis après, plus rien du tout. Mais au début, c'est populaire.
Alors, qu'est-ce qu'on aime? On aime l'absurde que développe George Herriman à travers ses personnages. On aime son trait. On aime le fait que ça ne ressemble à rien de ce qui avait été déjà fait.
Ce qui va déconcerter les lecteurs, c'est disons l'âge classique de Crazy Cat. Une fois qu'il est arrivé à Coconino County, qui va être son lieu de résidence.
Oui, c'est-à-dire quelque part en Arizona.
Quelque part en Arizona, mais c'est un vrai nom de comté, Coconino, en fait. C'est en fait situé au croisement de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique, au nord-est de Monument Valley, qui a été immortalisé par John Ford, qui a tourné tous ces westerns.
C'est bien de le rappeler, Margoline, parce que George Herriman s'amuse à représenter aussi les décors de l'Arizona.
Absolument, ouais. Il a découvert le pays en 1907, amené par un ami, et quelques années plus tard, il installe donc ses petits personnages dans ce pays de hauts plateaux, de mesas, de buissons qui roulent, de cactus. Et ce qui va désarçonner les lecteurs, c'est les décors qui changent. Comme au théâtre, quand on fait défiler des décors, les personnages commencent à parler, et puis tout d'un coup, derrière...
Oui, mais c'est-à-dire les décors changent d'une case à l'autre.
Ouais. Oui. Et puis, l'humour absurde va séduire, mais à la fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend quand même tous les codes comiques de l'époque, mais il en fait quelque chose d'absolument unique. Et puis, il y a une création graphique hallucinante. C'est un des inventeurs du genre qui va faire évoluer la bande dessinée.
Alors, on va écouter maintenant Benoît Peters, que vous connaissez. Hein.
Tout à fait.
Benoît Peters, qui est aujourd'hui professeur de la bande dessinée au Collège de France. Il y a quelques années, il donnait une conférence autour des premiers auteurs de bande dessinée américaine publiés dans la presse au début du XXe siècle, avec, bien sûr, une place de choix accordée à George Herriman. Benoît Peters.
Si Herriman et Crazy Cat importe tant aux amoureux de la bande dessinée, c'est aussi parce que la série témoigne dans les pages couleurs comme dans les pages noires et blancs, dans des grandes pages du dimanche qui vont exister pendant une très très longue période, la série témoigne d'une inventivité formelle extraordinaire. On joue bien sûr sur le vide et le plein, on joue sur l'agencement des cases et la possibilité de transformer cet espace en un espace que l'on parcourt. On invente une manière à chaque fois différente de construire une page. On invente, somme toute, une forme intransposable dans un autre langage. Vous ne pouvez pas faire, avec Crazy Cat, de grandes illustrations. Vous ne pouvez pas faire un dessin animé. C'est véritablement pensé pour cette forme. La série a toujours eu quelque chose de particulier, d'étrange, de décalé, de difficile. Et il faut rendre grâce à William Randolph Hearst, qui était loin de n'avoir que des qualités, d'avoir soutenu George Harriman envers et contre tout, même quand la série avait perdu de sa popularité, car il l'adorait. Semblable en cela, par exemple, au président des États-Unis, Wilson, qui lui aussi adorait Crazy Cat, et l'on dit que Picasso ne dédaignait pas cette série lorsqu'il avait l'occasion de tomber dessus. Donc, plutôt une série admirée par les dessinateurs, les auteurs, les intellectuels, une série dont on peut se délecter, mais une série aussi, quand on la revoit aujourd'hui avec ses pages couleurs, qui impressionne par son inventivité, par sa beauté, et par l'étrange poésie qui se dégage de ce trio toujours répété, de cette situation quasi lacanienne qui est au cœur de Crazy Cat. La souris lance imperturbablement une brique qui heurte le chat, qui la prend pour une preuve d'amour, et le sergent Pup essaye, généralement en vain, d'empêcher ce forfait, d'empêcher ces déclarations qui n'en sont pas, d'empêcher ce malentendu amoureux, ce dépit amoureux perpétuel.
Avec Marc Volin, traducteur de Crazy Cat, vous venez d'entendre Benoît Peters qui parlait de l'étrange poésie dans l'œuvre de Crazy Cat de George Harriman, de la situation lacanienne de ce malentendu amoureux. On peut même pousser en disant de cette ambiguïté sexuelle du personnage principal.
Absolument, mais la bande elle-même repose là-dessus. Les lecteurs ne vont cesser de harceler Harriman pour savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Frank Capra lui-même, le cinéaste qui était un grand fan de Crazy Cat, lui a demandé, et Harriman lui a fait cette réponse un peu tongue-in-cheek, comme disent les Anglais, en ne se mouillant pas trop, disant que finalement, c'est un elfe, un esprit, un lutin, que les lutins n'ont pas de sexe, qu'il avait essayé autrefois d'en faire une fille, mais même de la rendre enceinte, mais que ça ne collait pas, et donc c'était un personnage sans genre. Et en cela, il est tout à fait d'actualité. Je disais il y a quelques jours que Japan Airlines venait de décider de s'adresser à ses passagers de manière non genrée. Crazy Cat a précédé tout ce mouvement, puisqu'il refusait de se prononcer. Quand on lui demandait s'il était une fille ou un garçon, au recensement par exemple, il disait « comme vous voulez ».
Et une des histoires où il parle justement de ça est dans le dernier album qu'on édite pour la première fois.
C'est la traduction d'un album préparé par les Américains, mais c'est la première édition, qui fait découvrir au lecteur un peu la préhistoire de Crazy Cat, parce que...
Et même de la bande dessinée américaine,
hein. Des deux, parce que la préhistoire de Crazy Cat, parce que dans cet album, on verra peu le sergent Pup, qui n'est pas encore vraiment arrivé, qui arrive justement vers la fin de l'album. Et c'est les débuts de Crazy Cat, avec surtout une joute entre le chat et la souris.
Et tout cela à 100 ans tout juste aujourd'hui.
Absolument. Et les premiers de l'album, enfin ceux qui font le cœur de l'album, c'est les bandes panoramiques de 1920, et on commence dès 1911. On les a appelés panoramiques parce qu'en fait, Hearst, comme on l'a vu, était un grand amateur.
Alors c'est bien sûr, c'est le personnage qui a inspiré Orson Welles pour Citizen Kane. Hein.
Absolument.
C'est bon de le rappeler. Ouais.
C'est The Chief, ouais. The Boss. Et il décide, début 1920, d'offrir à Harriman carrément le bas d'une double page de quotidien, ce qui était un grand format. Et l'expérience va durer un an avant que les rédacteurs en chef ne craquent. Mais donc ça va permettre pendant cette période à Harriman de se lâcher particulièrement sur des strips quotidiens, alors que d'habitude c'est seulement dans les grandes pages du dimanche qu'on pouvait soigner les décors.
Et d'être l'expérimentateur que décrivait Benoît Peters.
Absolument.
Le réveil culturel, Tofika Kem sur France Culture.
Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et là, on parle d'une bande dessinée qui a marqué des générations. C'est du patrimonial, Crazy Cat, Margoline, vous qui avez traduit. Parce que on dit très souvent que c'est très difficile de traduire Crazy Cat. Pourquoi ? Parce que George Herriman jouait avec l'argot, avec les parlers de sa Nouvelle-Orléans natale, avec tout ce qu'il a pu enregistrer comme langue. Lui qui a beaucoup voyagé dans les États-Unis, c'est-à-dire d'abord la Californie, puis ensuite New York, où il va s'établir pour travailler pour la presse. Mais qui est donc George Herriman ?
Alors, on le sait depuis à peu près 50 ans. C'est en 1971 qu'un professeur d'université, Arthur Berger, à qui on a demandé de faire une petite notice biographique dans une encyclopédie américaine, se lance dans l'enquête et il va tomber sur le bulletin de naissance d'un George Herriman ou Harriman, et sur lequel il est marqué « colored », de couleur, donc noir. Il dit « c'est pas possible, George Herriman, qu'on voyait sur toutes les photos, blanc de peau, c'était pas un noir, donc j'ai dû me tromper ». Il dit ça à son rédacteur en chef, qui lui poursuit l'enquête et dit et découvre que si, il s'agit bien de ce Herriman-là. Donc, George Herriman faisait partie d'une famille de ce qu'on appelait les gens libres de couleur, qui étaient de descendance française, qui n'étaient pas esclaves. Il se trouve que sa famille était très pâle de peau, ce qui va permettre à son père, en 1890, donc quand le jeune George Herriman a 10 ans, devant la montée des émeutes raciales, de la répression, il prend une décision très grave à l'époque, qui est de passer blanc, comme on dit, c'est-à-dire de se faire passer pour des blancs. Il emmène toute sa famille dans la grande ville de Los Angeles, et il inscrit ses deux enfants dans une école pour blancs, et ils vont mener une vie de blancs. Plus tard, les collègues de George Herriman, ne sachant pas trop bien d'où il vient, bon, il a les cheveux un peu crépus, l'appelleront le Grec, et lui ne démentira pas. Mais donc, il va vivre toute cette vie en se cachant, ce qui est très dangereux d'une certaine manière. Si ça rate, Herriman lui-même travaille dans des journaux qui font leur une en dénonçant les gens qui se faisaient passer pour blancs. Et du jour au lendemain, votre vie est ruinée. Voilà. Donc il va passer toute sa vie comme ça.
Mais pourtant, Margoline, avec le recul, on voit bien que dans sa bande dessinée, il y avait quelques signes qui indiquaient
qu'il avait
une culture multiple.
Oui,
au moins.
Alors on peut dire, pour les références à la culture noire, on peut citer le banjo dont joue Crazy Cat, on peut jouer la pastèque dont il raffole, qui revient souvent. Il a quand même un oncle Tom Cat qui vit dans un champ de coton. Il y a le jeu éternel du noir et blanc. Crazy Cat qui veut se faire passer pour blonde, qui ressort tout blanc du salon de beauté. Ignace qui passe dans un tuyau de poils et qui ressort tout noir. Donc c'était dedans.
Il faut rappeler que Crazy Cat, c'est avec un K, hein, dans les deux mots. C'est-à-dire, il jouait aussi avec l'argot ?
Énormément. Mais il jouait avec tout. Ses collègues de bureau diront de lui, Herriman, il connaît toutes les langues. Donc, il jouait effectivement, comme vous le disiez, avec toutes les langues qui passaient, comme il va se prendre de passion pour le territoire indien des Navajo dans Monument de Valais, il va intégrer et des mots et des motifs navajo dans sa bande dessinée, dont le plus connu pour les motifs graphiques est évidemment le zigzag, qui sera repris sur le t-shirt de Charlie Brown par Schultz en hommage à Herriman.
Ouais, tout le monde rend hommage à Herriman, et pourtant c'est l'auteur qui a éprouvé le plus de problèmes à se faire connaître mondialement, c'est-à-dire très peu traduit. La plupart des traducteurs disent que c'est intraduisible. Margoline, vous-même, vous avez planché bien sûr sur ces bandes dessinées. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment difficile de...
C'est vraiment très difficile.
Quand vous dites que ça a été difficile de traduire, pourquoi ? Est-ce que vous avez tout traduit de Crazy Cat, vous qui êtes quand même un traducteur de professionnelle. Vous avez traduit une quarantaine d'ouvrages de l'anglais et de l'italien, du Jack London, des bandes dessinées, des romans. Qu'est-ce qui était dur dans ce travail de traduire Crazy Cat de George Herriman?
Alors, il y a plusieurs niveaux de difficultés. Le premier, c'est la multiplicité des langages. On trouve donc, pour faire un bref inventaire, de l'américain, de l'argot américain, du yiddish, de l'allemand, du français, de l'espagnol, du navarro, à peu près tout ce qui se passe. Ensuite, Crazy ne sépare pas, ne scande pas la phrase comme nous. Il va faire ses découpes de mots à d'autres endroits, donc il faut recomposer. Donc déjà, ça c'est une énorme difficulté. Ensuite, évidemment, il y a la distance d'un siècle. Toutes les références culturelles
qui sont plus d'actualité.
Aujourd'hui, il y a plein de choses que les Américains eux-mêmes ne comprennent pas.
Dernière question, s'il fallait accepter le jeu des comparaisons, même s'il faut toujours se méfier, est-ce qu'on peut dire que George Herriman, l'arrivée de George Herriman dans le monde des comics, c'est un peu comme ce qu'on a connu nous avec Fred et son Philimon qui intervient dans un monde de bande dessinée qui n'était pas du tout habitué à cet humour. À cet humour décalé, bien sûr, et puis aussi à cette poésie étrange.
Absolument, c'est l'arrivée de la poésie et de la philosophie dans la bande dessinée. Ça ne s'était jamais passé avant.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
C'est un très beau livre édité par Les Rêveurs. La parution des quotidiennes panoramiques de Crazy Cat de 1920 et c'est traduit par Marc Voline, mon invité ce matin. Merci beaucoup Marc Voline d'être passé.
Merci Toufik.
Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Dophar Guérid. Bon vendredi, on se retrouve lundi à la même heure.